Allez, on débranche tout appareil muni d'un écran et d'un clavier et on se déconnecte de nos réseaux sociaux dont il était question avec notre invité tout à l'heure. Heureux êtes-vous, chers auditeurs, si vous avez un pré ou simplement un petit carré d'herbe à portée de pied. Bonjour Alain Corbin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, historien, historien des sensibilités. Vous venez de faire paraître une histoire des émotions liées à l'herbe de l'Antiquité à nos jours. La fraîcheur de l'herbe, c'est son titre et on en a bien besoin. Il a paru chez Fayard. J'ai pas tellement l'habitude de procéder comme ça, mais c'est vrai que votre ouvrage s'y prête. Il est très fourni en citations de grands auteurs et en références à la peinture. Alors on va vous écouter comme si on était bien installé dans l'herbe, face à un conteur. Alain Corbin, l'odeur de l'herbe.
À l'odeur de l'herbe, quelque chose qu'on n'oublie pas, surtout quand on a passé son enfance dans l'herbe.
C'est votre cas, dans le Cotentin.
Ah oui, c'est mon cas. Vraiment, je suis un de ceux de la génération dont parle Yves Bonnefoy dans son livre « Les lieux d'herbe », c'est-à-dire que le sentiment d'exister est d'abord celui d'exister dans l'herbe avant le sentiment du moi, si vous voulez.
Pour ceux qui ont la chance, en tout cas, de naître à la campagne.
Qui ont eu la chance, parce que c'est un grand problème. Justement, dans ma génération, ça existait encore beaucoup. Et la chance de naître à la campagne est de naître dans le bocage du Sud-Cotentin, qui est le bocage le plus dense de France, et j'invite d'ailleurs les touristes à le visiter.
Chanceux que vous êtes, vous écrivez dans votre livre qu'on n'a pas toujours humé l'herbe de la même façon au cours des siècles.
Oui, voilà. Il y a toute une série d'émotions. J'ai cherché à suivre le fil de ces émotions et je crois que c'est parmi les émotions fortes, vraiment très fortes. Ça pourrait étonner parce que j'ai fait d'autres livres consacrés à des émotions et je crois que l'herbe, paradoxalement et d'une manière étonnante en tout cas, et une matière qui a suscité des émotions très fortes, intenses, très diverses.
Émotions visuelles aussi, Alain Corbin, la couleur de l'herbe.
Oui, la couleur de l'herbe est une couleur apaisante. J'avais d'ailleurs pensé intituler le livre « La verdure apaisante », mais on m'a dit chez l'éditeur qu'il valait mieux la fraîcheur de l'herbe. Donc, non, c'est une couleur apaisante. Michel Pastoureau l'a bien souligné dans son livre consacré au vert.
Les modulations sur sa couleur sont infinies. Le vert peut être intense, il peut être paradisiaque, il peut être perpétuel. Je ne sais pas ce que c'est que du vert perpétuel. Vous l'écrivez dans votre livre, il peut être aigre, diapré, obscur, presque noir, vert horizon.
Oui, bon, c'est une sorte de déclinaison, en quelque sorte, sur l'herbe. Mais l'herbe n'est pas que du vert, si vous voulez. Je ne sais plus si c'est Philippe Jacoté ou Yves Bonnefoy qui écrit « Elle est la sœur verte des nuages ».
C'est pas Rimbaud qui écrit ça?
Non.
Ah pardon,
non, c'est un poète tout à fait contemporain. Je trouve ça très fort parce que c'est ce qu'on éprouve dans le pré.
Alors Rimbaud, lui, parle du pré comme d'un clavecin animé par la main d'un maître. Si l'herbe était une musique, Alain Corbin.
Bah oui, l'herbe est une musique. Pour lui, c'est le clavecin des prés. D'autres ont évoqué le 5e concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach, par exemple, comme s'il était fait de brins d'herbe, de brins d'herbe debout.
Combien d'artistes, combien d'écrivains, de peintres, de musiciens l'herbe a inspiré? On peut remonter jusqu'à l'Antiquité, mais c'est vrai qu'il y a une fascination pour le moindre brin d'herbe.
Oui, alors là, c'est étonnant parce que ça vient de la Méditerranée. Il n'y a pas tellement d'herbe, finalement. La Méditerranée, c'est pas le Cotentin. Hein, vous le savez bien. Mais c'est vrai, avec Théocrite, puis ensuite avec Virgile, il y a toute une série d'exaltations de l'arbre et de l'herbe. Mais c'est ce que les Latins appelaient le lieu amen, le locus amoneus. Mais en fait, c'est sans doute un lieu en grande partie imaginaire, le lieu des bucoliques de Virgile, etc. Et ceux qui connaissent bien la Méditerranée seront d'accord que c'est peut-être un lieu quelque peu imaginaire qui montre d'ailleurs la force du désir d'herbe chez ces grands poètes.
L'herbe est désirée par l'homme, elle est incrustée dans sa mémoire, écrivez-vous, dans une formule presque psychanalytique. Et c'est amusant parce que dans le premier épisode de la Grande Traversée, consacré la semaine dernière à Sigmund Freud sur France Culture, il était question de son enfance et notamment de la grande prairie aux fleurs jaunes qui était à côté de sa maison natale et qu'il mentionnera souvent par la suite. On s'en rappelle toujours de cette herbe dans laquelle on a grandi.
Oui, oui, c'est quelque chose qui revient comme un leitmotiv, d'une manière très étonnante, dans des ouvrages qu'on n'attendrait pas. Je prends l'exemple de L'homme sans qualité de Robert Musil, qui est assez lourd, assez compact, peut-être un peu ennuyeux. Eh bien, j'ai relevé un passage de 4 ou 5 lignes dans laquelle il évoque effectivement l'herbe broutée par une vache, l'herbe d'enfance qu'on n'oublie jamais parce que c'est un événement primordial.
Victor Hugo rêve d'une herbe non foulée, comme on peut s'émerveiller d'un paysage de neige vierge de toute trace de pas. Alain Corbin, aujourd'hui, ce sont les citadins qui s'émerveillent pour le moindre brin d'herbe comme d'un paradis perdu.
Oui, alors c'est un paradis perdu, c'est évident, puisque les enfants ne vivent plus dans leur petite enfance à la campagne. Enfin, disons, dans l'herbe, c'est assez rare. Même à la campagne, on ne va pas forcément dans le pré comme on y allait de mon temps.
Mais parce que maintenant, il y a des tickets, là, il y a la maladie de Lyme, donc on
n'y
va plus.
Oui, en plus. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire le désir d'herbe dans les villes, sur les bords de fenêtres, les bords d'autoroutes, on fait brouter, etc., etc., ça montre qu'il y a à la fois une perte et un désir. Et que ce désir est satisfait par quelque chose qui ne correspond pas à ce que j'ai étudié, c'est-à-dire qui se termine vers 1950, finalement, mon livre se termine finalement vers 1950, parce qu'après, c'est plus la même herbe.
Pourquoi ?
Ben parce que, je vous dis, les enfants n'ont oui. plus cette même expérience, les agriculteurs ne la pratiquent pas de la même façon. Un pré, par exemple, dans mon petit enfant, c'était diapré, pour reprendre un terme médiéval. C'est-à-dire qu'il y avait des jonquilles, il y avait des boutons d'or, il y avait des pâquerettes, il y avait toutes sortes de fleurs. Je m'en souviens fort bien, des jacinthes aussi. Je m'en souviens fort bien, aller dans un pré, parce qu'il n'y avait que des prés hein, dans cette commune, aller dans un pré, c'était l'assurance de pouvoir se rouler dans quelque chose de fleuri. C'est plus le cas à cause du glyphosate ou de
C'est ce que j'allais vous dire maintenant. On dit attention, il y a du glyphosate, les enfants. C'est ça?
Ben oui.
Bon, Alain Corbin, il y a autant de brins d'herbe qu'il y a d'individus. Et ça, nécessairement, ça vous plaît en tant qu'historien de l'intime?
Oui, parce que le brin d'herbe, une sorte de jet d'eau debout, je ne sais plus quel est le poète qui disait ça. Et c'est surtout une promesse de renaissance. C'est que l'herbe, c'est ça l'herbe, elle meurt mais elle renaît toujours. C'est pourquoi on l'a mis très longtemps, et encore maintenant, je pense aux États-Unis, dans les cimetières. Le brin d'herbe debout, c'est l'infini d'en bas. Ce que j'ai fait, c'est de la nano-histoire, si vous voulez. C'est l'infini d'en bas, et pour Victor Hugo, c'était très important, parce que cet infini d'en bas pouvait dialoguer avec l'infini d'en haut, qui est l'étoile. Dans les contemplations, ces dialogues entre le brin d'herbe et l'étoile, c'est quelque chose d'important. Mais pour ces écrivains du 19e siècle, c'était important. Flaubert rêvait de pouvoir écrire l'histoire d'un brin d'herbe, précisant le brin d'herbe. D'autres écrivains ont souligné cette extrême importance du brin d'herbe qui paraît à la limite de la signifiance. Pas du tout.
On peut mettre un immense amour dans l'histoire d'un brin d'herbe, écrivait Flaubert. Victor Hugo, lui, l'interpelle, les brins d'herbe. Certains paraissent un peu hypnotisés à la limite de la folie quand même, quand Victor Hugo parle à l'herbe, ou Wolf Solent, le personnage éponyme d'un roman de John Cowper Poyss, qui bloque sur un brin d'herbe, qui n'arrive pas à détacher son regard d'une touffe d'herbe qui pousse entre des briques disjointes. L'herbe peut rendre fou. Et l'herbe peut être folle, d'ailleurs.
Oui, ah bah l'herbe folle, c'est un des grands thèmes. Il y a l'herbe domestiquée, l'herbe des parterres, l'herbe des jardins publics du 19e siècle. Et il y a l'herbe folle, celle qui pousse le long des routes, le long des quais abandonnés, dans les terrains vagues, sur les talus, etc. Alors, elle était très méprisée un certain temps, mais pas chez les Anglais, pas chez certains Anglais de la fin du 18e siècle, qui ont vraiment cherché à promouvoir l'herbe folle. C'est le cas aussi des transcendantalistes américains, dont David Thoreau.
Mauvaise herbe, j'aime pas beaucoup ça, parce qu'on a l'impression qu'il y a des bonnes herbes et des mauvaises herbes.
Et c'est pas vrai, ça, peut-être?
Bon, pas tout à fait, non. Pas tout à fait. En fait, il y a les bonnes qu'on a appris à cultiver depuis longtemps parce qu'on les consomme, ou parce qu'on en profite dans nos jardins, et puis les mauvaises, il vaudrait mieux dire les herbes sauvages, en fait. C'est les herbes qui se comportent un petit peu comme des prédateurs pour les jardiniers, c'est-à-dire que ça vient envahir les récoltes. Il y en a une qui est magnifique là-dedans, qui pousse pas en France, mais vous connaissez l'expression « semer la zizanie ». Eh bien, semer la zizanie, en fait, c'est une petite mauvaise herbe qui pousse au Canada. C'est une petite graminée québécoise, et ce sont les Indiens, les Iroquois notamment, qui, comme elle pousse très très vite et elle envahit le riz et toutes les autres graminées comestibles, alors quand ils veulent faire des rosseries aux tribus voisines, eh bien ils sèment la zizanie dans leur jardin. Et l'expression « semer la zizanie » vient de là. Et c'est ne pas récolter, parce que cette zizanie pousse tellement vite qu'elle envahit toutes les autres herbes. Et...
Voilà, c'est Claude Gudin, docteur en biologie végétale, qu'on pouvait entendre dans l'émission « À la bêche et au fourneau » par Rus Stegassi en 1995. Alain Corbin, comment peut-il y avoir, après vous avoir entendu parler avec autant d'amour de l'herbe, comment peut-il y avoir de mauvaises herbes ?
Oui, effectivement, Victor Hugo dit « il n'y a pas de mauvaises herbes comme il n'y a pas de mauvaises gens ». C'est dans les Misérables.
Il aime l'ortie, Victor Hugo.
Il aime l'ortie. Oui. Alors, cette notion de mauvaise herbe, elle vient de la Bible, en fait. Dans un passage de l'évangile de Matthieu, il y a la célèbre parabole de l'ivraie, de blé et de l'ivraie. Le prototype de la mauvaise herbe, c'est l'ivraie. C'est une plante rampante, je ne suis pas biologiste, moi, qui empêche l'herbe, le blé.
De
pousser. Et donc l'ivraie, c'est vraiment le symbole même de la mauvaise herbe. Mais pour certains poètes anglais de la fin du XVIIIe siècle, il n'y a pas de mauvaise herbe. Je le répète, pour David Thoreau, il n'y a pas de mauvaise herbe, au contraire. Et à ce propos, l'idée qu'il faut laisser les herbes, n'importe quelle herbe, s'épanouir librement, c'est aujourd'hui les jardins mouvements de Gilles Clément, etc. C'est extrêmement important. Et la déclaration des droits de la plante a précédé la déclaration des droits de l'homme.
Et qu'est-ce qu'on dit dans la déclaration des droits de la plante
siècle. Je ne sais pas, je sais que c'est un certain Mason qui l'a proclamé, mais je ne l'ai pas lu. Mais c'est l'idée que la plante a le droit de ne pas être domestiquée, taillée, coupée, rasée, etc. Comme les pelouses devant les maisons américaines.
Et je suis sûr que vous-même, petit, on vous a demandé de vous mettre aux travaux,
voilà,
de sarcler.
J'ai passé des heures à sarcler les carottes, les bandes de carottes et de tous les légumes. On allait sarcler, de même qu'on allait chercher l'herbe au lapin. C'était pendant l'occupation, hein. L'herbe au lapin, c'était parce que les lapins, c'était absolument central pour pouvoir manger. On en élevait des quantités énormes, même les petits bourgeois. Il fallait aller chercher l'herbe au lapin. Alors, l'herbe au lapin, il y a des endroits où elle est très dure, c'est-à-dire que au bord des chemins, on se fait mal aux mains, mais alors, dans les prés du bocage où j'étais, c'était un délice parce qu'on se... L'herbe était fraîche, justement, et haute, fraîche et nourrissante pour les lapins.
L'herbe qui inspire à nous les hommes le désir amoureux aussi.
Ah, oui, bien sûr, ça c'est un des grands thèmes. D'abord, pour revenir à la campagne, il est évident que l'idylle, le flirt, hein, parce qu'il y a un siècle du flirt, de 1870 à 1950, grosso modo. Eh bien, c'est...
Le siècle du flirt ?
Oui.
Après, ça s'est arrêté.
Bah oui, avec la pilule. Le flirt disparaît avec la pilule. Alors donc, c'est vrai que l'herbe invite à l'idylle. Ça, c'est un grand thème littéraire dès l'Antiquité, et surtout intensément dit par le poète Pétrarque du Moyen-Âge, 14e siècle, dont la lore... c'est-à-dire celle qu'il aime, dans la lore, se promène les pieds nus dans l'herbe, et que l'herbe est ravie, l'herbe se souvient des pieds blancs de l'or dans l'herbe. C'est un grand thème du 19e siècle aussi, parce que ces gens ont lu Pétrarque, hein, au 19e siècle. Et si vous avez en tête les peintures des pré-raphaélites, vous verrez que nombreuses sont les évocations de femmes aux pieds nus, tout blancs dans l'herbe. Et puisque vous parliez de la sensualité, à part l'idylle, il y a évidemment ce qu'on a appelle au XXe ou XXIe siècle, faire l'amour dans l'herbe. Ça, c'est un thème aussi pictural. Hein. Il y a des la femme nue dans l'herbe, la blancheur de la nudité sur le verre est exaltée par Degas, par exemple. Il y a de très belles choses de Degas dans ce domaine. Alors, ça a été, en fait, à la campagne. On faisait souvent, enfin je veux dire, c'est quelque chose d'assez commun de faire l'amour dans l'herbe ou dans la grange, hein, sur le foin. Par conséquent, ça vient de là, surtout les soirs de batterie ou les soirs de fenaison, le soir, etc., où il y a un peu d'exaltation. Bon, mais cette idée que dans les hautes herbes, surtout dans les herbes de la plaine plus que dans les herbes du pré, faire l'amour, c'est quelque chose d'exaltant.
Bon, faire une histoire de l'herbe, Alain Corbin, finalement, c'est aussi faire une histoire de l'improductivité.
C'est-à-dire?
Eh bien, on parle de faire l'amour sur l'herbe, on parle des mauvaises herbes qu'il faut arracher, mais on parle de l'improductivité. C'est vous qui l'écrivez dans votre livre.
Oui, mais ce que je veux dire aussi, c'est surtout, je suis pas sûr d'avoir employé ce terme, mais bah, peu importe, c'est surtout que l'herbe, malgré tout,
Laisser l'herbe pousser.
Oui, c'est laisser l'herbe pousser. Au Moyen-Âge, celui qui avait des prés, hein, c'était mieux que d'autres terroirs, si vous voulez. Hein, c'était vraiment ce qu'on voulait, parce que c'est ce qui rapportait le plus. Un beau pré d'herbe. D'ailleurs, c'est la différence aussi entre le pré et la prairie. Le pré que Francis Ponce a étudié pendant des années à la fin de sa vie, c'est un lieu dans lequel on soigne l'herbe. On y fait attention. On la regarde. Elle est plus douce qu'ailleurs. C'est quelque chose de très intéressant, la différence entre le pré et la prairie.
Pourquoi vous n'avez pas fait de botanique, Alain Corbin ?
Oh ben parce que je ne peux pas tout faire. Vous pourriez me demander aussi pourquoi je n'ai pas fait de biologie puisque j'ai étudié la sexualité, etc.
Mais en tout cas, ça vous passionne. Qu'est-ce qu'il en aurait pensé votre maître, l'historien Ernest Labrousse, grand spécialiste de l'histoire économique et sociale, de cette nouvelle lubie pour l'herbe après la pluie, les émotions, le silence, lui qui travaillait sur la méthode quantitative ?
Oh, il m'aurait mis dehors. Si j'étais venu lui parler de ça, je crois qu'il m'aurait mis dehors, ce bon Labrousse, parce que c'était absolument pas ce qu'il entendait faire. C'était d'ailleurs l'opposé de Lucien Febvre, son contemporain, qui lui aurait sans doute mieux accueilli cela.
Et vous, qu'est-ce que vous vous êtes senti, encore senti touché avec ce livre de l'universel qui nous rassemble peut-être parce que vous travaillez sur l'intime, mais la somme des intimes fait un collectif. Et ces émotions que vous décrivez, on les ressent tous.
Ben je pense que c'est un grand pan de l'histoire, hein, l'histoire des émotions. Ça, je serais mal placé pour dire le contraire, puisque avec Georges Vigarello et Jean-Jacques Courtide, on a publié une histoire des émotions, une tentative de synthèse l'année dernière. Mais je crois que c'est un pan d'histoire qui est très développé aujourd'hui, aussi bien aux États-Unis qu'en Allemagne, qu'en Angleterre. Et donc voilà, j'y crois.
Et l'herbe qui disparaît, ce sont aussi des émotions qui disparaissent, des traditions, des métiers, des fêtes.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, on va pas tomber dans une nostalgie un peu.
C'est pas votre genre.
Mais c'est vrai que tout change dans ce domaine et que au fond, c'est d'interroger ce désir actuel d'herbe, d'une herbe qui n'est plus l'herbe dont j'ai parlé, qui me paraît assez, disons, intéressant à interroger.
Fell into the ocean, and you became my wife. Rested all against the sea to have a better life. Breathe you all the wild blue sky. Men do foolish things. You turn kings into
The World is Green. Tom Waits, pour conclure cette émission, Alain Corbin, et votre livre et votre monde est vert, La fraîcheur de l'herbe, c'est le titre du livre que vous venez de faire paraître aux éditions Fayard, Fayard Histoire, histoire d'une gamme d'émotions de l'Antiquité à nos jours. Et merci d'être venu les partager avec nous ce matin.
Merci.
Merci beaucoup.